C'est l'heure du journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. La détresse et l'incompréhension après la catastrophe de Millas, où 5 collégiens ont trouvé la mort dans cette collision entre un car scolaire et un train. Défaillance technique ou erreur humaine, l'enquête devra le déterminer. Dans l'actualité également, ce coup de théâtre au procès de Georges Tron, le président du tribunal décide l'interruption et le renvoie à une date ultérieure. À suivre, la baisse du chômage pour l'année 2016 et la hausse du SMIC pour 2018, une augmentation mécanique de 1,24% qui ne suscite pas la satisfaction chez les syndicats, à commencer par la CGT, nous l'entendrons. On retiendra en sport la qualification de nos handballeuses pour la finale du Mondial. Les tricolores qui se sont imposés 24-22 devant les Suédoises et qui affronteront demain la Norvège. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard à la fin de cette édition.
France Inter.
L'émotion et les questions après l'accident de Millas qui a provoqué la mort de 5 collégiens et alors que 6 autres sont pour le moment entre la vie et la mort. L'émotion à Saint-Félieu-d'Availle, d'où étaient originaires la plupart des victimes. Nous allons y revenir dans un instant. Et les questions, ou plutôt la question, cette question lancinante de savoir s'il s'agit d'une défaillance technique ou bien d'une erreur humaine. Savoir si les barrières de ce passage à niveau ont fonctionné à temps et si le feu clignotant était allumé. Oui, répond-on du côté de la SNCF et d'une dizaine de témoins. Non, pour la conductrice du bus qui s'est confié à son patron, deux parties qui se sont affrontées toute la journée d'hier par médias interposés, Géraldine Allot.
Est-ce que les barrières du passage à niveau étaient ouvertes ou fermées lorsque le train est arrivé? C'est la question cruciale qui occupe les enquêteurs, car si elles sont restées levées, cela veut dire qu'il y a pu avoir une défaillance technique. Sur ce point, les versions divergent. Le patron de la société d'autocar Fort a pu s'entretenir avec son employée, la conductrice du bus. Celle-ci lui a dit qu'elle avait traversé en toute confiance et en toute sérénité le passage à niveau, car les barrières étaient ouvertes et le feu clignotant éteint. Le patron de la société d'autocar va même jusqu'à dire « Lorsque la vérité sera connue, la SNCF devra assumer ses responsabilités ». Réplique immédiate de la SNCF, elle se déclare choquée par ces accusations particulièrement graves, formulées selon elle sans aucune preuve. Hier soir, le procureur de la République de Marseille a indiqué que la majorité des témoins de l'accident avaient vu des barrières fermées, mais il a ajouté que les auditions étaient loin d'être terminées.
L'émotion, vous disais-je, à Saint-Félieu-d'Availle, ce village situé à 20 km de Perpignan, d'où étaient originaires la plupart des jeunes victimes et où une messe a été célébrée dans la soirée. Pour Isabelle, la mère d'une élève de 11 ans qui a perdu 3 de ses camarades de classe, rien ne sera plus comme avant.
Cet accident est inconcevable et entre le chagrin des familles et la crainte de savoir aussi que nos enfants empruntent des transports sur des circuits qui... laisse à désirer. Alors, chagrin, colère, pour des enfants qui avaient de beaux visages et qui vont manquer à nos fils. Pour l'instant, ils sont effondrés parce qu'ils doivent digérer le fait de ne plus les revoir. Ils en parleraient certainement comme des copains qui devaient se retrouver pour l'arbre de Noël dimanche, pour des sorties, pour... Mettre un bonnet du Père Noël pour fêter le dernier jour. Donc là, ça va être en vacances. Donc il va falloir énormément de temps pour ne plus avoir le ventre serré quand un bus va passer dans le village.
Un témoignage recueilli par l'un de nos envoyés spéciaux, Jérôme Jadot, nommé hier. Un coordinateur interministériel est attendu sur place dans la journée. Son rôle va consister à venir en aide aux familles des victimes.
Dans l'actualité également, Serge, ce coup de théâtre hier soir aux assises de Bobigny avec le renvoi à une date ultérieure du procès de Georges Tron.
Oui, le président de la Cour a finalement donné raison aux avocats de la défense du maire de Draveil qui comparaissait depuis mardi pour viols et agressions sexuelles sur 2 anciennes employées municipales. Motif officiel invoqué, le retard pris par l'audience. Mais pour Maître Vincent Olivier, l'avocat de l'une des deux plaignantes, ce renvoi est plutôt le fruit d'un climat épouvantable entourant ce procès, il l'a dit à Isabelle Raymond.
Je pense que, vu le caractère déplorable des procédés qui ont été employés pour pourrir cette audience et obtenir au forceps un renvoi, ça en dit parfaitement long sur la cause qui est défendue et sur la crainte qu'a Georges Tron de voir enfin exposer publiquement les faits qui ont conduit à sa mise en accusation devant la cour d'assises. On a aussi parlé de terrorisme judiciaire. Lorsqu'on s'emploie par tous les moyens à rendre une audience impossible, je pense que le terme de terrorisme n'est pas nécessairement exagéré.
Alors, l'origine de cette tension, un reportage d'Envoyé spécial donnant la parole à un témoin, témoignage dénoncé par les avocats de Georges Tron, et le fait que le président de la cour d'assises aurait indiqué sous le sceau de la confidentialité qu'il aurait préféré voir une femme présider à sa place les audiences.
Il est 8h05, on parle Serge de la baisse du chômage et de la hausse du SMIC.
Oui, c'est une première depuis 2007. Le chômage a en effet enregistré une baisse de 3%, ceci pour l'année 2016. Côté SMIC maintenant, on parle de hausse, enfin d'une augmentation mécanique de 1,24% conforme à la revalorisation légale, ce qui concrètement se traduira par 20 euros mensuels de plus dès janvier et 15 euros supplémentaires à partir d'octobre. Une décision jugée insuffisante pour Boris Plazzi de la CGT.
Vivre en 2018 bientôt avec moins de 1200 euros par mois, c'est tout bonnement impossible. On ne vit pas, on survit. Il semblerait qu'une députée En Marche considère que son indemnité de parlementaire de 5000 euros par mois la contraint à manger de nouveau des pâtes. Imaginons une personne qui touche 1200 euros par mois. Quelle peut être sa situation sociale?
Des propos recueillis par Isabelle Raymond. Un mot de politique encore pour vous dire que le Modem tient aujourd'hui son congrès à Paris et que par ailleurs Emmanuel Macron s'apprête à fêter avec quelques jours d'avance ses 40 ans. Pour ce faire, le chef de l'État a loué une salle du château de Chambord, château de François Ier, pour accueillir ses invités, mais assez frais, tient-on à préciser, du côté de l'Élysée.
Au Proche-Orient, la colère ne retombe pas après la décision prise par les États-Unis de reconnaître Jérusalem comme seule capitale d'Israël.
De nouvelles manifestations ont en effet eu lieu hier dans les territoires palestiniens, des heurts qui se sont traduits par 4 morts et 150 blessés côté palestinien. Sur place, le reportage de Marine Vlahovic.
Pierres à la main, des grappes de manifestants poussent des bennes à ordures, des boucliers de fortune pour se protéger des tirs de l'armée israélienne. Ici, au checkpoint de Beit Il, au nord de Ramallah, un Palestinien a été abattu par les soldats après qu'il ait poignardé l'un d'entre eux. Les balles continuent de siffler, mais ils sont encore des centaines de jeunes et de moins jeunes à participer aux affrontements.
Ça, c'est le son des balles qui peuvent tuer tout le monde ici. C'est ma terre, c'est mon pays. On vit ici et on mourra ici.
10 jours après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump, et même si la rue palestinienne peine à se mobiliser, la colère est encore bien présente.
Moi, ce que je ressens, c'est que les Palestiniens n'accepteront jamais ce que le président américain Trump a dit sur Jérusalem. Car c'est la capitale de la Palestine.
Ce regain de tension a fait plusieurs dizaines de blessés dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la bande de Gaza, où 2 manifestants ont été tués par l'armée à la frontière avec Israël. Ramallah, Marine Vlahovic, France Inter.
À l'étranger encore, en bref, un nouveau gouvernement autrichien va être investi ce lundi. Conservateurs et extrême droite ont en effet trouvé un terrain d'entente pour parvenir à une coalition. Allez, un petit peu de légèreté et de fraîcheur pour refermer ce journal avec de l'opérette, direction le théâtre Gralin de Nantes, où tous les soirs, Mamselle Nitouche fait un tabac, remis au goût du jour par le metteur en scène Pierre-André Weiss. Ce grand classique du répertoire de la fin du 19e siècle a incontestablement été remis au goût du jour, Stéphane Capron.
L'opérette n'est plus ringarde, surtout pas avec cette mise en scène truculente de Pierre-André Weiss qui rend ses lettres de noblesse à un grand musicien oublié, Hervé, le père de l'opérette, qui savait s'amuser.
Hervé est organiste à Saint-Eustache le jour et il écrit des œuvres légères la nuit où il se travestit en femme espagnole et donc il fait vraiment des choses complètement incroyables. Hervé, il dit simplement qu'entre l'être et le paraître, il y a une grosse différence.
Moi, j'ai suivi comme un bêta. J'aurais mieux fait assurément d'écouter maman.
Cette petite voix de comique troupier, c'est celle d'Olivier Pie. Et oui, le directeur du très sérieux Festival d'Avignon, il joue 3 rôles dans ce spectacle.
Je suis presque tout le temps sur le plateau, puisque je fais d'abord une mère supérieure un peu hystérique, et ensuite une actrice un peu hystérique, et ensuite un brigadier un peu hystérique, et à la fin, de nouveau, la mère supérieure hystérique. Donc oui, après 3 heures de scène, je suis franchement carbonisé.
Le tout est dirigé de main de maître par le chef Christophe Grapperon, avec dans le rôle titre de Mamselle Nitouche, une belle découverte, Laura Neumann.
Mamselle Nitouche, c'est au théâtre Gralin de Nantes jusqu'au 20 décembre, mais aussi sur CD, édité par le Palazzetto Bruzane. C'est la fin de ce journal en musique, donc, et c'est à vous, Eric Delvaux.
C'était le journal de Serge Martin.